Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit, Alexandre Lemaire.
Bonsoir. Le chômage revient à son niveau d'avant la crise du Covid. La baisse du nombre de demandeurs d'emploi accélère. Tous les chiffres dans un instant. 20% des lits d'hôpitaux sont inaccessibles par manque de bras, absentéisme et postes vacants. Situation compliquée, reconnaît Olivier Véran. Des renforts de police à Alençon après une nuit de violence urbaine. Voitures incendiées, policiers et pompiers pris pour cible. Le trafic de drogue pourrait être l'explication. Le monde de la culture subit toujours l'effet Covid. Près d'un Français sur deux boude encore les lieux culturels. Nous verrons que certains s'en sortent mieux que d'autres. Rembobinage pour Nice OM qui se rejoue ce soir après les incidents qui avaient mis fin au match en août dernier. On joue depuis 1h03. Damien Ardoy, que dit le score ?
Un but partout entre Nice et Marseille. Payet, le Marseillais, a répondu au Niçois Gouiri. C'est la mi-temps.
Merci beaucoup Damien, on vous retrouve en fin de journal. L'invité éco à 22h20, ce sera Martin Vial, directeur général de l'Agence des participations de l'État, alors que les sociétés de son portefeuille ne lui ont jamais aussi peu rapporté en 10 ans. Et puis on verra enfin ce que vous réservent les journaux demain matin. La reprise économique est donc bien là. La baisse du chômage a connu un coup d'accélérateur au troisième trimestre. C'est le signe, Maud Descamps, que le redémarrage de l'activité post-Covid se confirme.
Oui, et c'est sur la catégorie A, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi qui n'ont pas du tout travaillé, que la baisse est la plus significative, moins 5,8% au dernier trimestre écoulé et moins 10% sur un an, soit le niveau d'avant-crise. Cette baisse concerne toutes les régions de France. Alors parmi ceux qui en profitent le plus, eh bien, il y a les jeunes de moins de 25 ans, moins 14,8% sur un an. Et si on regarde ces chiffres d'un peu plus près, eh bien, on voit que ce sont les jeunes femmes qui en profitent davantage avec une baisse de plus de 15%. Ces chiffres s'expliquent par la très forte reprise économique post-Covid. De nombreuses entreprises embauchent déjà depuis plusieurs mois et ce n'est pas terminé hein, puisque les besoins de main-d'œuvre sont nombreux dans les secteurs du bâtiment, de la restauration mais aussi de l'industrie.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1. Ne boudons pas ces bons chiffres du chômage, mais la crise sanitaire n'est pas encore derrière nous. On sait que les contaminations repartent à la hausse. Or, nous avons découvert aujourd'hui ce chiffre préoccupant. À l'hôpital public, un lit sur cinq est fermé, faute de soignants, faute d'effectifs suffisants. C'est la conclusion d'une enquête du professeur Delfrécy du Conseil scientifique. Près de 6000 lits inaccessibles au total. Olivier Véran, le ministre de la Santé, reconnaît une situation compliquée pour faire face à ce manque de bras criant à l'hôpital Afsaneh Sabouy.
Alors ce chiffre de 20% de lits fermés par manque de soignants et la méthodologie par laquelle il a été obtenu fait un peu débat, mais tout le monde s'accorde sur un point, les hôpitaux ont vraiment pris de plein fouet les vagues de Covid. Vincent Roch de la Fédération hospitalière de France.
Les soignants sont fatigués, il y a une demande de sens, une demande de perspective. La situation qui nous remonte du terrain, c'est une situation plus difficile que les années précédentes. Un absentéisme de 10% à l'hôpital, le taux moyen de vacance de poste est de 4,5% pour les infirmiers, de 2,5% pour les aides-soignants.
Dans un entretien à Libération, le ministre de la Santé reconnaît que la situation est, je cite, « compliquée ». Il précise même qu'il a demandé à Pôle emploi de recevoir les soignants qui s'inscrivent en vue d'une reconversion pour essayer de les rattraper in extremis. Une étude est par ailleurs en cours pour chiffrer plus précisément les difficultés de recrutement des hôpitaux sur l'ensemble du territoire.
Afsaneh Sabouy, spécialiste santé à Europe 1. En déplacement ce soir dans la Drôme, Anne Hidalgo a lancé sa campagne sur le thème des déserts médicaux. La candidate promet, si elle est élue, de supprimer les agences régionales de santé qu'elle compare à des agences comptables. Anne Hidalgo promet un plan de recrutement massif pour l'hôpital public. Attention, une épidémie peut en cacher une autre. La bronchiolite continue de gagner du terrain en France. Elle pourrait être particulièrement répandue cet hiver, après une année blanche due au Covid. La bronchiolite a dépassé le seuil épidémique dans la plupart des régions. La Bretagne et la Corse, les seuls encore épargnés, s'en rapprochent. Pas de grève à la SNCF le week-end prochain pour la Toussaint. Les syndicats ont levé leur appel qui devait concerner, comme le week-end dernier, les TGV Atlantique. La circulation des TGV sera donc normale sur ce réseau. Nous allons maintenant à Alençon, dans l'Orne, où le quartier de la Persaigne est placé sous haute surveillance ce soir au lendemain d'une nuit de violence urbaine. 13 voitures incendiées, la police, puis les pompiers visés par des tirs de mortier. Le procureur se montre prudent, mais selon la police, ces violences feraient suite à l'interpellation de deux suspects pour trafic de drogue, Wilfried De Villers.
Oui, l'interpellation hier après-midi d'un adolescent de 16 ans suspecté de vendre de la drogue et de la personne qui l'accompagnait. Joachim Pueyo, le maire d'Alençon, voit clairement un lien entre ces arrestations et les incidents de la nuit.
Quand il y a des interpellations, souvent il y a des réactions de personnes, des individus qui veulent en démordre avec la police. Donc moi j'y vois quand même un lien. Parce qu'effectivement, on dérange ceux qui sont à l'origine du trafic de stupéfiants, qui est quand même un mal endémique de notre territoire.
Une version soutenue également par la préfète de l'Orne, Françoise Tahéry. Pour sa part, le procureur, lui, ne confirme pas pour l'instant un lien établi entre ces interpellations et les faits. Une enquête a été ouverte pour destruction et violence sur des personnes dépositaires de l'autorité publique. Sur place, le calme est revenu, oui, mais le quartier portait encore aujourd'hui les marques de cette nuit de violence. Des carcasses de voitures calcinées, encore fumantes, évacuées en milieu de matinée. Et puis, ce qui inquiète, c'est le scénario d'une nouvelle nuit de violence. Ce soir, selon la préfète de l'Orne, des renforts ont été déployés sur place. Les membres d'une brigade de CRS sont arrivés dans le quartier en fin d'après-midi.
Wilfried De Villers. C'était un rendez-vous attendu. La très récente commission sur l'inceste créée au début de l'année a rendu son premier avis en quelques mois d'existence seulement. Eh bien, elle a été saisie par des centaines de femmes, des mères de famille qui confient leur impuissance à protéger leur enfant de l'inceste, faute d'être entendue, faute d'être crue, Virginie Riva.
Oui, souvent, ces mères se retrouvent accusées à tort par des experts lors de la procédure judiciaire d'aliénation parentale, en gros d'utiliser leur enfant pour accuser leur conjoint, un concept qui pour la commission inceste n'a aucune base scientifique. Les mères peuvent même se voir dans la foulée condamnées pour non-représentation d'enfants ou se voient même retirer la garde et se retrouvent face à un dilemme, respecter la décision de justice et confier leur enfant à leur agresseur ou ne pas le faire et le protéger. Il faut que tout cela change pour Ernestine René, membre de la commission inceste.
Dans les mentalités de l'ensemble des professionnels, il y a encore trop souvent l'idée que puisqu'elles se séparent, souvent dans un contexte de violence d'ailleurs, de violence conjugale, la mère manipule l'enfant pour que l'enfant dise qu'il a été victime de violence sexuelle.
Aujourd'hui, le juge peut décider, en attendant la fin de la procédure, de suspendre l'autorité parentale, les droits de visite et d'hébergement du père. C'est la recommandation de la commission. La commission qui demande également de suspendre les poursuites pénales pour non-représentation d'enfants contre un parent lorsque l'enquête est en cours. Enfin, elle recommande que la loi prévoie désormais le retrait systématique de l'autorité parentale dès lors qu'il y a condamnation d'un parent pour violence sexuelle incestueuse sur son enfant.
Virginie Riva. Au deuxième jour du procès des meurtriers présumés de Mireille Knoll, la cour d'assises de Paris s'est penchée aujourd'hui sur l'enquête elle-même. Des enquêteurs se sont succédés à la barre. Ils ont d'abord montré des photos de la scène de crime et puis une vidéo des accusés juste après le meurtre. Le parallèle est édifiant, Gladys Laffitte.
D'abord, la cour s'est plongée dans l'appartement brûlé de l'octogénaire à travers des photos. On devine la décoration rouge du salon, dorénavant dominée par le noir, conséquence de la puissance des flammes. Et puis la chambre. Ici, la scène est difficile, prévient le président. Effectivement, le haut du lit médicalisé est carbonisé, tout comme la majeure partie du cadavre de la victime, dont seuls les pieds sont indemnes et pendent du lit. « Regardez, regardez !» dit le fils de la victime aux accusés. Mais les deux hommes regardent le sol. Des images glaçantes qui contrastent avec la vidéosurveillance du bar où vont les accusés 1h30 après le crime. Ici, l'ambiance est plus légère. Pendant 25 minutes, Yacine Mihoub parlemente avec le serveur ou les clients. Il rit parfois. « Vous n'êtes pas triste de la scène que vous venez de vivre ?» demande le président. « Si, mais je n'extériorise pas », répond-il. Sur la vidéo, Alex Karim Baku s'est avachi sur une table, la tête entre les bras. Il a peur de son complice et sous le choc, explique-t-il. Là aussi, le président interroge. « Pourquoi vous ne fuyez pas ?» Aucune idée, conclut-il.
Gladys Laffitte aux Assises de Paris pour Europe 1.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
C'est une cérémonie à forte valeur symbolique qui s'est tenue aujourd'hui au musée du Quai Branly à Paris. Emmanuel Macron a officialisé la restitution au Bénin de 26 œuvres d'art, des œuvres pillées par la France pendant la période coloniale et qui étaient jusqu'ici exposées dans le musée. Vous avez assisté, Jacques Sauré, à cette cérémonie pour Europe 1.
Oui, le chef de l'État est venu voir une dernière fois ses œuvres, la statue mi-homme mi-requin, une autre mi-homme mi-lion ou encore un trône royal. 26 œuvres du 19e siècle récupérées par la France lors de la colonisation. Aujourd'hui, Emmanuel Macron veut faire de leur restitution un geste fort et dans ses mots se pose en défenseur de l'universalisme.
Et je veux ici, parce que j'écoutais les débats que nous pouvons avoir parfois chez nous, y compris ces derniers jours, Le but de tout cela ne serait pas de renationaliser de manière parfaite les patrimoines de chacun. Ce serait une folie. Mais c'est de permettre à chacun de retrouver, je crois, ce à quoi la France, par son histoire, a aussi contribué et qu'elle doit maintenant partager, un rapport à l'universel et à l'universalisme. Non pas un rétrécissement, mais la possibilité offerte que l'universalisme soit accessible partout. C'est cela le combat que nous devons mener.
Un combat à mener, message à ses adversaires pour la présidentielle. Le chef de l'État qui a indiqué son intention de proposer une loi pour faciliter ce type de démarche et rendre possible d'autres restitutions. Il recevra dans 2 semaines le président du Bénin pour le retour au pays de ses œuvres.
Jacques Serey au musée du Quai Branly pour Europe 1. Le torchon brûle sur le dossier de la pêche entre Paris et Londres. La France menace de prendre des mesures de rétorsion contre le Royaume-Uni dès le 2 novembre. Faute d'accord à cette date sur les licences de pêche après le Brexit, eh bien la France menace de contrôle systématique sur les produits d'outre-Manche, voire de réduire ses livraisons d'électricité vers les îles anglo-normandes. Alec Baldwin risque des poursuites pénales après le dramatique accident sur le tournage du western Rust au Nouveau-Mexique. L'acteur américain a tué la chef opératrice alors qu'il s'entraînait à dégainer une arme face caméra. C'est un accident, mais c'est bien Alec Baldwin qui tenait cette arme, prévient la procureure qui tenait aujourd'hui la première conférence de presse sur l'enquête. Alexis Guieux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. La police a saisi 600 pièces à conviction sur le tournage.
Oui, des costumes et 3 armes à feu, dont le Colt d'époque qui était manié par Alec Baldwin, ainsi que 500 munitions, balles factices ou peut-être réelles, selon le shérif. Les enquêteurs ont également mis la main sur la balle qui a tué Alina Hutchins.
Le projectile en plomb qui a été tiré a été récupéré dans l'épaule du réalisateur Joel Souza. Nous avons découvert d'autres balles sur le plateau et nous pensons que ce sont des balles réelles.
Le shérif parle d'une certaine complaisance avec les règles sur ce tournage. Les munitions réelles sont strictement interdites selon les protocoles d'Hollywood. L'enquête qui se poursuit devra déterminer pourquoi et comment ces balles se sont retrouvées sur ce western. Tout cela va prendre du temps. Il y avait 100 de personnes sur le plateau, autant de témoins à interroger. La procureure n'exclut aucune piste, y compris des poursuites au pénal contre Alec Baldwin, acteur et producteur de ce western.
Toutes les options sont encore sur la table. Je ne ferai pas de commentaires sur de potentielles poursuites, mais l'enquête n'exclut personne pour le moment.
Et alors que l'investigation se concentre sur l'armurière et l'assistant réalisateur, ce dernier a expliqué aux enquêteurs ne pas avoir vérifié toutes les cartouches du revolver remis à Alec Baldwin.
Alexis Guilleux. La pandémie de Covid a mis le monde de la culture à genoux, on le sait, et il semblerait qu'il en subisse toujours les conséquences. Selon un sondage commandé par le ministère de la Culture, près d'un Français sur deux n'a pas remis les pieds dans un lieu culturel depuis la fin du mois de juillet. Est-ce que ça va se tasser? Est-ce qu'au contraire, un changement d'habitude durable? En fait, toute la culture n'est pas logée à la même enseigne. Marie Jiquel, certains théâtres s'en sortent même plutôt bien.
Directeur de 2 théâtres privés à Paris, Sébastien Azopardi se réjouit. Tous ses spectacles ont affiché complet hier soir.
Au mois de septembre, avec nos salles vides, on était tous logés à la même enseigne, à devoir remplir nos salles depuis zéro. C'est sûr qu'il a fallu du temps pour relancer la machine. Aujourd'hui, ça y est, les réservations ont repris un petit peu d'avance.
Le pass sanitaire ne semble plus être un frein pour les spectateurs.
Le problème, il s'est posé au mois de juillet, quand il a fallu du jour au lendemain intégrer le pass sanitaire, mais c'est plus vrai aujourd'hui.
Les salles se remplissent à nouveau, mais progressivement, il faut reconquérir des Français plus casaniers. C'est ce que constate Laurence de Magalès, la directrice du théâtre Le Montfort à Paris.
Il faut que les gens reprennent le rythme de sortir, on s'est habitué à autre chose. Nos abonnés qui faisaient 6-7 spectacles par semaine, effectivement, ils en font plus que 4 maintenant, enfin, c'est ce qu'ils nous disent d'ailleurs.
L'ultime test de cette année 2021 encore perturbé, les fêtes de fin d'année, une période généralement fructueuse pour les salles de spectacle.
Marie Jiquel. Les exploitants de cinéma, eux, s'inquiètent du dernier projet de Netflix. Le géant de la vidéo en ligne prévoit de montrer ses films maison sur grand écran d'ici à la fin de l'année en France. La Fédération des cinémas français appelle Netflix à renoncer à ses plans au moment précisément où les cinémas peinent toujours à retrouver leur public. Lucas Hernandez échappe finalement à la prison. L'international français du Bayern Munich avait été condamné à 6 mois de prison en Espagne. Au dernier moment, la justice espagnole a accepté son recours. Pour Lucas Hernandez, c'était vraiment moins une, hein, Henri de la Guérie.
Ah oui, le défenseur de l'équipe de France a eu très chaud. Il évite finalement une incarcération à quelques secondes du coup de sifflet final. Il devait entrer en prison d'ici demain soir. L'affaire remonte au début de l'année 2017. Le joueur franco-espagnol, âgé alors de 21 ans, se bagarre avec sa compagne. Ils échangent des coups. Ils sont tous les deux condamnés à un mois de travaux d'intérêt général. Et puis ils ont interdiction de s'approcher l'un de l'autre à moins de 500 mètres pendant 6 mois. Mais quelques semaines plus tard, ils se réconcilient et partent en voyage ensemble aux États-Unis. Lucas Hernandez est interpellé à son retour à l'aéroport de Madrid. Il est finalement condamné en 2019 à 6 mois de prison pour non-respect de cette mesure d'éloignement. Dans un premier temps, la justice a refusé un aménagement de peine. L'Espagne est en pointe dans la lutte contre les violences conjugales et les juges se montrent intransigeants. Mais contre toute attente, un ultime recours a donc été accepté. L'exécution de la peine est suspendue. Mais attention, Lucas Hernandez ne devra commettre aucun délit en Espagne pendant 4 ans et il devra verser une amende de 96 000 euros.
Henri de Laguerry, le correspondant d'Europe 1 en Espagne. On refait le match ce soir entre Nice et l'OM. Les compteurs sont remis à zéro après les incidents qui avaient mis fin à la rencontre en août dernier. Nice-OM ce soir, ça se passe en terrain neutre dans la ville de Troyes et à huis clos. Damien Ardoy, vous êtes sur place en direct pour Europe 1. On est en début de seconde période, hein, Damien.
Oui, 58 minutes de jeu dans ce match à rejouer ici à Troyes entre Nice et Marseille. Le score, un but partout après un très bon début de match. Nice a logiquement ouvert le score grâce à Amine Gouiri, mais au fil des minutes et malgré de très grosses occasions concédées, Marseille est revenu dans la partie et sur l'une des premières belles opportunités, c'est Dimitri Payet, le capitaine olympien très discret jusque-là, qui s'est faufilé dans la surface de réparation pour égaliser après un beau mouvement collectif. Le début de seconde mi-temps est plutôt équilibré avec des situations intéressantes de part et d'autre, peut-être un rythme un peu moins important qu'en première mi-temps, mais de toute façon, les deux équipes n'ont pas le choix. Si elles veulent récupérer la deuxième place du classement de Ligue 1 aux dépens de Lens, il faut s'imposer ce soir dans ce stade de l'Aube à huis clos. 59 minutes de jeu désormais et toujours un but partout entre Nice et Marseille.
Damien Ardoy en direct de Troyes pour Europe 1. Merci Damien. On reviendra prendre des nouvelles de ce Nice-OM avec vous. Ce sera juste avant 22h30. Le temps pour ce jeudi. Demain, Marlène Duret, ce sera un beau soleil d'automne sur presque tout le pays.
Eh bien, le beau temps s'imposera quasiment partout. Oui, Alexandre, c'est la plus belle journée de la semaine. Profitons-en. Comme toujours, lorsque les conditions sont anticycloniques, on va retrouver nos phénomènes de grisaille et de brouillard, généralement au nord de la Loire ainsi que dans le Val-de-Saône. Mais bon, ils vont se dissiper avant la mi-journée. Du Calvados au Nord-Pas-de-Calais, donc en bord de Manche, le soleil ne se laissera pas désirer. Pas de grisaille par là-bas. Le ciel couvert en Bretagne va annoncer l'arrivée d'une perturbation. Elle abordera le Finistère avec de la pluie dans l'après-midi. Et puis pour terminer, les entrées maritimes attendues dans le Languedoc-Roussillon et les Bouches-du-Rhône avec quelques pluies faibles jusqu'aux Cévennes. On surveillera d'ailleurs ce secteur. On parle d'un épisode cévenol entre vendredi et samedi qui peut prendre une composante méditerranéenne et donc se décaler vers l'est le reste du week-end. Les températures pour demain, un peu fraîches, un peu plus fraîches en tout cas que ce matin au lever du jour. Les maximales en journée seront en hausse avec 15 degrés de minimale attendue à Strasbourg contre 23 au Pays Basque ou encore du côté de Menton sur la Côte d'Azur et on prévoit 19 degrés dans la capitale.
Merci Marlène Duret, on fera un nouveau point avec vous météo à minuit.
Europe Nuit. Informez-vous avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
Et on retrouve Top à Wall Street sur Europe 1 avec Didier Hamot. Bonsoir Didier.
Bonsoir Alexandre.
Les valeurs technologiques ont continué de se distinguer ce soir à Wall Street.
Oui, le marché américain est un petit peu coupé en deux ce soir entre la hausse du Nasdaq en hausse de 0,12%, petite progression à 15 236 points, et la baisse du Dow Jones de 0,7%, moins 0,74% exactement, 35 490 points. En fait, le pétrole recule assez nettement. Il y a des prises de bénéfices sur le baril à 82 dollars ce soir. Un pétrole qui était bien monté et qui revient en arrière. Ça pèse sur Exxon. Moins 2,6%, le géant pétrolier à 64,13$. Évidemment, ça alourdit l'indice Dow Jones. En revanche, les valeurs de technologie tirent le Nasdaq à la hausse. Ça a commencé par Microsoft, en progression de plus de 4%, 323$. Les revenus du premier trimestre ont grimpé de 22% chez Microsoft à plus de 45 milliards de dollars, dopé toujours par le cloud. Et puis Google, plus 5%. 2 924 $. Là aussi, les revenus s'envolent chez Google de 41% à plus de 65 milliards de dollars au troisième trimestre. C'est gigantesque et ça donne un titre en hausse, en forte hausse de 5%. Ça se passe bien toujours pour Tesla aussi, plus 1,9%, 1 037 $, toujours plus haut. En revanche, Facebook, moins 1% et Apple, moins 0,3%, ferme la marche. L'euro campe sur les 1,16 ce soir, sans changement face au dollar.
La Bourse de Paris, Didier, a terminé en légère baisse dans un marché plutôt indécis.
Moins 0,19%, 6 753 points sur le CAC 40, un marché oui, qui a tergiversé à l'écoute des nombreux résultats trimestriels des groupes cotés. On a Worldline qui a chuté de 16%, 55 euros après des comptes décevants et des projections jugées prudentes. Le groupe Worldline table sur une croissance organique de 6% cette année. Même chose pour le groupe de luxe SMCP qui retombe de 9%. Et puis tout le secteur pétrolier corrige, un petit peu comme à Wall Street d'ailleurs. Donc toujours dans le sillage du baril qui consolide. On a Technip moins 4%, Vallourec moins 4% aussi. Et puis Total qui cède 0,2%, 43,63 €.
Exception du jour, le titre Seb, lui, s'est envolé de 12% après l'annonce de ses comptes.
Oui, le fabricant de petits électroménagers grimpe de façon spectaculaire, plus 12% à 138 euros. Le groupe Seb attend désormais une croissance de ses ventes de 14% cette année, contre 10% auparavant. Sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires a grimpé de 18,2% à 5,5 milliards d'euros. Donc Seb, ce soir, en hausse de 12% à la clôture. Les autres places financières en Europe sont à la baisse, petite baisse du DAX à Francfort, moins 0,3%, Bruxelles, moins 0,2%, Madrid, moins 0,5%, Milan, moins 0,6%, et le CAC 40 en baisse de 0,19%, 6 753 points.
Merci Didier Hamo de Boursier.com. L'État actionnaire, lui, est à la diète. Il n'a jamais touché aussi peu de dividendes depuis 10 ans. L'invité éco ce soir sur Europe 1, Martin Vial, directeur général de l'Agence des participations de l'État, il répond à Emmanuel Duteil.
Bonsoir Martin Vial.
Bonsoir Emmanuel Duteil.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur de l'Agence des participations de l'État. C'est donc vous qui gérez tout l'argent de l'État finalement dans les entreprises. Vous êtes au capital de 83 entreprises. On va en citer quelques-unes. ADP, Air France, EDF, mais également IN Group, hein, qui est le nouveau nom de l'imprimerie nationale, ou encore Naval Group. Si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est parce que vous venez de présenter les dividendes notamment que vous allez récupérer de la part de toutes ces entreprises. Ce sont les plus petits dividendes de ces 10-15 dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé ?
S'agissant des dividendes, les chiffres que nous avons communiqués sont ceux encaissés en 2020. Et en 2020, au moment au plus fort de la crise, il y a eu deux types d'entreprises. Celles qui, de toute façon, ne pouvaient pas distribuer de dividendes parce que leurs résultats étaient très négatifs. Et celles qui n'ont pas voulu distribuer de dividendes au printemps 2020 parce qu'elles ont voulu préserver l'avenir en gardant de la trésorerie pour l'entreprise plutôt que pour les actionnaires. Et donc, dans notre portefeuille, nous avons eu les deux catégories d'entreprises et c'est la raison pour laquelle, en effet, l'État actionnaire a accepté de réduire drastiquement les dividendes encaissés en 2020 de l'ordre de 300 millions par rapport à un peu plus de 2,3 milliards l'année précédente.
On va revenir à ces 2,3 milliards rapidement ou tendanciellement, vous pensez que vous aurez moins de dividendes dans les années à venir du côté de l'Agence des participations de l'État ?
Je pense que nous allons revenir à un niveau proche de celui de 2019-2018 pour deux raisons. La première, c'est que un certain nombre de nos entreprises ont bien traversé la crise et qu'elles redressent leurs résultats en 2021 et 2022. Et la seconde, c'est que les entreprises qui étaient en difficulté ou qui sont encore en difficulté verront leur situation s'améliorer sensiblement, je l'espère, en 2022. Et donc, sur le moyen terme, nous devrions retrouver un niveau de dividendes proche de ceux que nous avons connus dans le passé.
Est-ce que cet espoir concerne également Air France ? Vous avez dû fortement les aider à coût de milliards d'euros ces derniers mois. Certains disent qu'il va falloir continuer. Comment ça va se passer ?
Air France KLM doit traverser une crise majeure du transport aérien qui n'a pas de précédent dans l'histoire contemporaine et doit faire face d'une part à un temps de délai de reprise du trafic du transport aérien qui est long en raison aussi des mesures sanitaires qui sont prises par les pays dans le monde entier. Deuxièmement, il y a une très forte transformation environnementale du modèle économique, c'est-à-dire que les compagnies aériennes, et en particulier Air France, doivent réduire leur empreinte carbone, et puis il y a besoin de rajeunissement de flotte. Bref, tout ceci fait que Air France KLM est devant des défis qui restent considérables.
Donc ça veut dire que vous n'excluez pas de devoir continuer à les aider?
Nous sommes le premier actionnaire, nous allons rester le premier actionnaire et si c'est nécessaire, évidemment, nous les soutiendrons en capital.
Alors vous êtes également, et de très loin, le premier actionnaire d'EDF. Le président de la République a annoncé une relance du nucléaire extrêmement importante, avec notamment la construction de petits réacteurs qu'on appelle des SMR. Puis également, il y a la rumeur que serait peut-être annoncée d'ici à Noël, cette fois la relance de 6 EPR en France. Déjà, ils arrivent là avant Noël? C'est le cadeau de Noël du gouvernement et du président de la République à EDF?
Je ne sais pas ce que le président de la République va décider et encore moins communiquer. Ce que je sais, c'est que à la suite de la publication du rapport de RTE, qui est le gestionnaire des infrastructures de transport d'électricité, 6 scénarios de ce qu'on appelle le mix électrique, c'est-à-dire la combinaison des différentes sources de production d'électricité, ont été rendus publics.
Et ce qu'il en sort, c'est qu'il faudra d'une manière ou d'une autre un peu de nucléaire, donc il va falloir renouveler effectivement. Mais du coup, est-ce qu'il va falloir soutenir EDF? Parce que la relance du nucléaire, ça veut dire des investissements majeurs pour EDF. Et même si l'entreprise profite assez nettement de la hausse des cours de l'énergie, elle n'est pas en forme.
Je ne pense pas qu'on puisse dire cela. EDF, en fait, est à la fois un très grand producteur, évidemment, de nucléaire, mais aussi d'énergie renouvelable. Il faut savoir qu'avec en particulier son parc hydraulique, dorénavant aussi un parc éolien et photovoltaïque, EDF est un des premiers acteurs européens dans le domaine des énergies renouvelables. Et donc notre souhait, nous, en tant qu'actionnaires, c'est que EDF puisse à la fois financer son parc nucléaire existant, la maintenance de son parc existant, et investir encore plus dans les ENR dans le futur. C'est le sens des discussions qu'on a eues avec les commissions
européennes. Et ils ont assez de moyens pour le faire tout seul, c'est ça que vous laissez entendre, Martin Vial?
Nous poursuivons les discussions avec la Commission européenne en ce sens, et s'il y avait le développement de nouveaux actifs nucléaires, naturellement, l'État sera amené à en discuter avec la Commission européenne.
Alors, par ailleurs, on arrive donc à la fin du quoi qu'il en coûte, même s'il y a encore quelques chèques résiduels qui arrivent pour aider telle ou telle profession, et notamment pour aider les Français très concernés par la hausse des coûts de l'énergie. À un moment, il va bien falloir payer. Je le disais, vous êtes au capital de 83 entreprises. On pourrait se dire, c'est peut-être pas utile pour toutes. Il y avait notamment la privatisation d'Aéroports de Paris qui était dans les tuyaux. Il n'est pas temps un petit peu de privatiser pour ramener un petit peu d'argent?
Nous avons depuis plusieurs années eu une rotation de notre portefeuille importante. Depuis un peu plus de 6 ans, nous aurons vendu pour environ 15 milliards d'actifs sur le portefeuille. Et dans le futur, nous entendons continuer à faire respirer ce qu'on appelle faire respirer notre portefeuille, c'est-à-dire faire des opérations de cession partielle ou totale. Simplement, on le voit bien, la conjoncture aujourd'hui est encore insuffisante sur le plan de la valorisation des actifs de notre portefeuille. Et par conséquent,
c'est vrai pour Aéroports de Paris, mais on pourrait se dire pour d'autres sociétés, la bourse n'a jamais été aussi haute, par exemple, en ce moment. Donc la valorisation d'une partie de vos entreprises n'est pas si mauvaise.
C'est exact. Simplement, un certain nombre de nos entreprises sont engagées dans des transformations stratégiques majeures.
On peut penser à Orange, par exemple, où là, vous avez encore une part résiduelle qui n'est pas indispensable.
Mais dans des entreprises comme Orange ou comme Engie, ce sont des entreprises qui ont engagé des transformations et qui vont permettre d'augmenter sensiblement la valeur dans le futur. Et par conséquent, nous souhaitons, comme bons gestionnaires des deniers publics, s'il devait y avoir des cessions dans le futur, le faire au bon moment.
Eh bien, ce sera à suivre. Merci beaucoup, Martin Vial. Je rappelle que vous êtes à la tête de l'Agence des participations de l'État. Merci d'avoir été avec nous. Nous, on se retrouve demain à 22h20.
Merci, Emmanuel Duteil. On vous retrouve aussi demain avec Elisabeth Assayag de 13h à 14h pour La France Bouge sur Europe 1. Votre invitée sera la patronne du zoo de Beauval, classé 4e plus beau zoo du monde et célèbre pour ses pandas. Eh bien, il profite à plein en ce moment de ses vacances de la Toussaint.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire vous informe sur Europe 1.
Les unes de vos quotidiens pour demain, jeudi, spectaculaire. Les Échos et Le Figaro partagent le même constat. Spectaculaire, l'amélioration de l'emploi en France. Le nombre de demandeurs d'emploi a baissé de près d'un million en un an, relève Le Figaro. Ce qui ramène le chômage en dessous de son niveau d'avant-crise, complète Les Échos. Les offres à destination des cadres sont particulièrement dynamiques. S'agit-il du pass sanitaire ? En tout cas, le retour du public dans les lieux culturels est bien timide, note Ouest-France. Après cette étude dévoilée par le ministère de la Culture, dont on vous parlait dans le journal, et qui nous révèle que près d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans un lieu culturel depuis l'instauration du pass sanitaire le 21 juillet dernier. COP26, même pas cap, s'interroge Libération, car à partir de dimanche, les dirigeants du monde vont tenter à Glasgow d'agir enfin concrètement face à un changement climatique dévastateur. Libé qui vous propose de décrypter les enjeux de cet énième sommet de la dernière chance. Allez, sur Europe 1 à 22h30, on retourne très vite prendre des nouvelles de Nice OM avec vous, Damien Ardoix, en direct de 3. Damien, où en est le score ?
73 minutes de jeu, un but partout, toujours dans ce match à rejouer et à huis clos au stade de l'Aube, ici à 3, des buts du Niçois Guiri et du Marseillais Payet en première mi-temps. Un score plutôt logique pour le moment, tant les deux équipes ont du mal à se créer des opportunités dans cette seconde mi-temps, que ce soit Paolo Lopez, le gardien olympien, ou Walter Benitez, le gardien niçois. C'est le chômage technique depuis pas mal de minutes maintenant. Il faut dire que ce huis clos total et l'absence de supporters n'incite pas forcément à se sublimer et à tenter d'aller glaner les trois points. Il reste encore un gros quart d'heure à jouer dans cette rencontre pour forcer la décision. Un but partout entre Nice et Marseille.
Damien Ardoix en direct de 3. Merci Damien. Il est 22h30. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. C'est l'heure de la libre antenne avec Olivier Delacroix. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Alexandre.
Est-ce que vous vous sentez niçois ou marseillais ce soir?
Moi, je me sens plus marseillais que niçois.
Ah oui.
J'aime beaucoup Marseille.
Il vous reste le rôle de l'arbitre sinon?
Oui, mais non, en fait. Non, je vais, dès que je peux, quand je descends à Marseille, dès que je peux, avec des amis, je vais voir l'OM. Et le stade Vélodrome est un endroit magique. Donc, et comme je suis français, bien quand Marseille joue en Coupe d'Europe, je supporte Marseille, ce qui n'est pas le cas de la plupart de mes amis marseillais qui, quand mon club de cœur, le PSG, joue en Coupe d'Europe, eh bien, et contre le PSG.
Bon, eh bien, ce soir, Nice OM se joue à 3, en terrain neutre. On va
Exactement.
Suivre attentivement l'issue du match.
Et on va suivre attentivement tout ça.
Merci, Olivier.
On se retrouve tout à l'heure à 23h pour le résultat.
Ah, évidemment, à tout à l'heure.